En pleine recrudescence, de nombreuses attaques informatiques ciblent les internautes particuliers, mais aussi les entreprises et les administrations. Elles visent à obtenir des informations personnelles afin de les exploiter ou de les revendre, qu'il s'agisse de données bancaires ou d'identifiants de connexion à des sites marchands et bien d'autres choses. Pour contrer ces malveillances, il est nécessaire de comprendre comment se font ces attaques et ces arnaques, et bien sûr apprendre à les déjouer. Je vous emmène aujourd'hui à Polytech, la grande école d'ingénieurs publics de l'Université de Lille, où se forment des informaticiens qui se penchent aujourd'hui plus que jamais sur ces questions de sécurité.
Je m'appelle Thomas Ventroy, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille et j'enseigne à Polytech Lille.
Voilà, donc aujourd'hui à Polytech Lille se tient une épreuve autour de la cybersécurité. Donc c'est un domaine vaste.
Oui, c'est un domaine très très vaste qui demande des compétences multiples, aussi bien en administration système, en réseau. Il y a de l'attaque, il y a de la défense, donc ça demande beaucoup beaucoup de compétences, oui.
Donc j'imagine qu'actuellement on parle beaucoup des attaques, pas seulement des virus, mais des chevaux de Troie et puis de tous ceux qui veulent du mal à des systèmes pour des raisons diverses. Hein. Donc il y a un combat permanent.
Ah oui, ça n'arrête jamais. Surtout que les attaquants sont très très rusés, ils exploitent toutes les failles, ils vont essayer d'en trouver. Et donc de l'autre côté, on ne peut pas s'arrêter une seconde parce que sinon on va tomber. C'est vraiment un métier, on ne peut jamais s'arrêter.
Donc on peut même dire qu'aucun système n'est infaillible.
Non, aucun système n'est infaillible, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la faille. C'est plutôt ça. Et comme les failles maintenant peuvent venir de différents éléments, que ce soit votre téléphone, votre objet connecté, ça devient de plus en plus complexe puisque, comme le monde se numérise, on a de plus en plus de portes d'entrée finalement dans nos systèmes informatiques.
Est-ce qu'on peut imaginer des systèmes avec des parois multiples, des étanchéités qui se renforcent l'une l'autre ?
C'est plutôt l'inverse, c'est que les systèmes sont en train de, à force de les interconnecter, on introduit plus facilement des failles. Il y a eu quelques exemples assez récents d'attaques de systèmes en passant par exemple par l'aquarium connecté, qui n'était pas très bien sécurisé, mais qui était sur le réseau d'entreprise. Et donc en attaquant l'aquarium, ils ont réussi à accéder au réseau de l'entreprise et donc à attaquer les bases de données. Les réseaux sont vraiment très très larges et très très hétérogènes.
Et j'imagine que la vitesse de circulation fait que les portes d'accès, je veux dire, pas s'ouvrent plus facilement, mais plus rapidement.
Plus rapidement, et en plus, maintenant, il y a des services qu'on appelle des crime as a service, qui font que vous pouvez acheter votre bot, vous pouvez acheter vos attaques à l'étranger sans aucun souci. Et donc ça devient assez peu cher finalement d'attaquer un système à l'heure actuelle.
Voilà, donc la façon d'attaquer, de rançonner, elle a beaucoup évolué dans le temps. Les technologies favorisent cela. Donc on peut dire que les technologies, à la fois, c'est un moyen de développer, mais aussi un moyen pour des malfaiteurs de dérober un peu ce qu'ils veulent finalement. Comment ciblent-ils ce qu'ils vont chercher ?
Alors ça dépend. On va trouver différentes catégories, puisqu'on va avoir des gens qui vont faire des fausses applications pour téléphone, parce que ça, c'est aussi le plus facile, puisqu'on va cibler l'utilisateur lambda, qui n'est pas au courant de ce qu'il télécharge. Et à partir de là, on va pouvoir chiffrer les données, donc demander des rançons, utiliser les SMS à l'insu de l'utilisateur. Donc ça, c'est plus répandu, finalement. Et après, on peut avoir des attaques ciblées sur des entreprises pour récupérer l'information, ou voire même pour essayer d'attaquer l'appareil de production, puisque de plus en plus, l'appareil de production est connecté aussi sur les réseaux informatiques.
Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités et beaucoup de failles possibles pour former des gens, justement, des étudiants ou des personnes, des professionnels, hein, et aussi en formation continue pour évoluer, enfin suivre l'évolution de ces types d'attaques. Quels sont les lieux et les moyens pour justement arriver à les former à un haut niveau ?
Alors c'est relativement complexe parce qu'il faut déjà avoir une base forte en informatique. Ensuite, ça va dépendre des métiers, parce que chacun va devoir se spécialiser dans des domaines comme la défense ou l'attaque, parce que c'est vraiment des domaines très spécialisés. Alors ensuite, c'est la première source d'information, c'est le web, puisque c'est là-dessus qu'on va avoir les attaques. On va aussi avoir les failles, puisque les failles sont toujours publiées quand elles sont découvertes. Et donc ça va permettre aussi de patcher et de vérifier que son système est à jour. C'est aussi l'un des grands problèmes, c'est les personnes qui ne mettent pas à jour leur système. Et ça, c'est vraiment la première faille. Donc, c'est une demande, une veille constante pour tous les informaticiens qui vont devoir gérer la sécurité.
Il y a tout un débat en ce moment sur les environnements, les systèmes d'exploitation comme Windows, par exemple, et qui sont quand même des sociétés énormes, mais qui ont toujours encore quelques failles. Et puis des systèmes peut-être plus libres. Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme autour des systèmes libres comme Linux, d'une certaine efficacité, enfin du moins un certain niveau de protection possible, un avantage en quelque sorte?
L'avantage, c'est que le code source étant disponible, souvent les failles sont repérées et réparées plus vite. Mais dans un système, même dans un système libre, on a des failles et on peut se faire attaquer. Et une partie des erreurs ne vient pas forcément du système, mais ça vient aussi des utilisateurs, puisque c'est la première source de problème finalement dans l'informatique.
Donc évidemment, la mise en réseau de tout, ça multiplie les risques. Est-ce qu'il y a des responsables de sites qui sont capables de détecter très vite et de réagir et de faire intervenir peut-être les bonnes personnes au bon moment?
Alors, en entreprise, on appelle ça un RSSI, donc un responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est eux qui vont devoir mettre en place une politique pour essayer de détecter, de refaire une reprise en cas de problème. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué parce que maintenant la menace peut venir de partout. Il y a des exemples, il y a quelques années, d'attaques en passant par des cigarettes électroniques. Puisque c'est un équipement électronique, on peut brancher sur son PC pour le charger. Mais en fait, à l'intérieur, on peut y mettre un virus. Et donc ça, c'est très très difficilement détectable sur un réseau informatique classique.
Plus on a d'ouverture sur son téléphone portable, par exemple, il y a différents moyens de communiquer avec d'autres, plus on multiplie les risques.
Exactement, oui. Et de plus en plus, la faille vient du téléphone et des applications dans le téléphone, qui ensuite vont ramener des virus ou vont ramener des problèmes dans le réseau entreprise.
Bon, la 5G n'a pas d'incidence en termes de technologie sur l'augmentation éventuelle des risques.
Il peut y avoir des failles comme dans n'importe quel matériel. Mais ce n'est pas parce qu'on passe en 5G qu'il y aura plus de risques ou moins de risques que maintenant.
Est-ce qu'il y a des pays qui ont pris une certaine avance technologique dans justement tout ce qui est trousse à outils pour éviter ces piratages?
Dans les attaques, il y a quelques pays qui sont spécialisés, qui vont développer beaucoup d'outils qui ensuite vont pouvoir être répandus. On pense à Israël, par exemple, qui a des systèmes un peu plus évolués. Mais c'est pareil en France et aux États-Unis. Mais les services étatiques gardent leurs secrets, donc c'est difficile de savoir. Contre le piratage, finalement, comme ce qui est piraté, c'est des machines classiques qu'on retrouve partout dans le monde, il n'y a pas d'État en particulier qui veille là-dessus.
Donc, quand on forme des étudiants, comment on imagine leurs évolutions, leur avenir professionnel et aussi le recyclage? Est-ce que ça va très vite au niveau des générations?
Alors oui, ça va très vite. Alors, c'est pour ça que nous, on essaye quand même de commencer par la base, de leur fournir une base générique, large, pour qu'on puisse, ils puissent s'adapter ensuite dans leur métier. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir et 5 ans de formation, c'est beaucoup, mais en fait, en réalité, c'est très très peu vu la largeur du domaine. Donc ils vont forcément devoir se spécialiser et ça va passer par la pratique et les stages. Et le fait de leur donner une bonne base dès le départ, ça leur permet ensuite, au fur et à mesure, de faire de la veille, de comprendre ce qui se passe, les évolutions et de pouvoir s'adapter.
Donc là, on est à Polytech. Combien y a-t-il d'étudiants, on va dire, spécialisés dans ce domaine à Polytech?
Alors, en cybersécurité, finalement, très très peu, puisque dans le département donc informatique, microélectronique, automatique, on a une cinquantaine d'étudiants par promo, et on va en avoir peut-être que 5-6 qui vont aller faire du réseau derrière en sortie d'école, puisque c'est pareil, ils sont formés de manière assez large, et donc ils vont trouver des emplois un petit peu partout.
Et au-delà de Polytech, est-ce qu'il y a d'autres écoles dans la région Hauts-de-France?
Alors sur l'université, il y a le master d'informatique qui fait également de la cybersécurité. Et on va retrouver une option cybersécurité à l'ISEN ou à l'IMT Télécom.
Voilà, donc aujourd'hui, on a des étudiants qu'on va rencontrer. Ils sont deux, c'est un tandem.
Ah oui, les Olympiades de cybersécurité se font en binôme, c'est un cas particulier. Et donc c'est deux étudiants de Polytechnique en quatrième année.
Donc 4 ans, ce qui veut dire qu'il leur restera un an pour avoir leur diplôme d'ingénieur, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça, oui.
Et donc, a priori, l'idée du concours, c'était de valoriser certains d'entre eux. Tous n'ont pas répondu à l'appel, visiblement. Est-ce qu'il y a eu des raisons particulières?
Alors non, il y avait d'autres binômes qui avaient répondu à l'appel, mais alors ensuite, avec le décalage, puisqu'au départ, les Olympiades étaient au mois de mars, le fait que les étudiants soient aussi en partie repartis chez eux fait qu'on a cette année très peu d'étudiants qui sont là pour le concours.
Voilà, donc si vous aviez peut-être un conseil à donner aux entreprises, et pourquoi pas aussi un conseil à nos auditeurs d'une manière plus large, ce serait lequel?
Pour les auditeurs, j'aurais tendance à dire, faites attention à vos applications sur vos téléphones, parce que la plupart du temps, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Les entreprises, elles ont suffisamment de conseillers, j'ai pas besoin de leur conseiller.
Voilà, donc un métier d'avenir.
Ah oui, c'est un métier d'avenir en pleine évolution, et on le voit dans la région Hauts-de-France, notamment avec le FIC, donc le Forum international de cybersécurité, qui a lieu tous les ans, qui est organisé avec la gendarmerie, qui fait venir des gens du monde entier sur la cybersécurité, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de boulot, et de plus en plus.
Voilà, donc des formations en 5 ans pour être ingénieur. Est-ce qu'il y a d'autres échelons?
Alors, il y a une licence pro cybersécurité à Maubeuge, qui est extrêmement bien cotée aussi, avec très bons étudiants. Et ils ont ensuite, il y a le master à Valenciennes. Donc, on peut faire de la cybersécurité dès un bac plus 3.
Nous sommes toujours à Polytech, la grande école d'ingénieurs publics de l'Université de Lille, où se forment ces informaticiens, dont dépend en partie notre sécurité informatique. Voilà, donc nous sommes avec un binôme d'étudiants, d'élèves, à niveau 4e année, c'est ça?
C'est ça, oui.
Donc peut-être on peut dire vos prénoms, on ne dira pas vos noms, on ne sait jamais.
D'accord, moi je m'appelle Pierre.
Moi c'est Samuel.
Voilà, donc au bout de 4 ans, vous êtes capable de réaliser quoi, par exemple, dans ce domaine de la cybersécurité?
Dans le domaine de la cybersécurité, pas encore grand-chose parce qu'on débute tout juste. Mais on a déjà eu pas mal de TP cette année sur de la mise en place de réseaux, des choses comme ça.
Est-ce qu'être en binôme, ça aide? Vous pouvez vous donner l'un l'autre des solutions? Ça va plus vite parfois, trouver des idées?
Ouais, on a un peu nos forces et nos faiblesses, donc on s'aide sur différentes parties de l'examen, quoi.
Et avant d'arriver dans ce concours aujourd'hui, est-ce que vous connaissiez le sujet qui allait vous être proposé?
Non, on a sur le site internet, il y avait un sujet d'une année passée qui ressemble un peu, mais à chaque fois, c'est des choses différentes. Et...
Alors, quel est le cas d'école aujourd'hui?
Bah, mise en place d'un réseau, le sécuriser et une deuxième partie attaque d'un réseau.
Voilà. Donc ça c'est des métiers que vous allez pratiquer après, c'est votre objectif.
Ouais, pourquoi pas travailler dans la sécurité.
Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à concevoir? Est-ce que vous pensez que ceux qui attaquent, sont des gens très intelligents qui s'adaptent très vite, et est-ce que il vous faut les mêmes compétences de votre côté pour déjouer les pièges?
Ouais, je pense que... Enfin, je suis pas expert dans le domaine, mais les hackers professionnels, ils sont hyper compétents dans leur domaine. Et je pense que du coup, il faut des ingénieurs encore plus compétents pour pouvoir contrer le plus rapidement possible ces attaques.
Et comment passe-t-on de l'un à l'autre, j'allais dire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été formés et qui deviennent après hackers?
Non, je pense que... Bah à la base, on fait tous un peu la même chose, puis il y en a qui font ça pour aider les autres en sécurisant, et d'autres qui le font pour eux, en fait.
Donc, dans la résolution aujourd'hui de votre problème, il vous faut combien d'heures pour trouver les solutions proposées?
Le sujet, c'est un sujet de 6 heures, mais même en 6 heures, ça reste très compliqué. Déjà, faut avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir le finir. Et même en ayant toutes les compétences nécessaires, le temps, il est peut-être un peu faible.
Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, vous ne connaissiez pas le sujet, ça peut vous servir après, ce que vous avez recherché là, soit dans vos études, soit peut-être dans des applications que vous mettriez en place?
Ouais, c'est des technologies qui sont utilisées en entreprise encore, donc c'est vrai que se former sur ces méthodes, c'est toujours intéressant pour nous aussi.
Donc vos enseignants, vous avez des enseignants ici, hein. J'imagine qu'ils ont un niveau supérieur dans ce domaine-là. Est-ce qu'ils vous donnent une formation aussi de déontologie, de bonnes pratiques, voilà. Et est-ce qu'en gros, ils vous engagent à être citoyen au service des systèmes, des personnes, des sociétés qui ont besoin d'être protégées?
Oui, bien sûr, on est poussé vers la sécurité, pas vers l'attaque. Ouais.
Voilà, donc votre savoir-faire, vous pensez que vous allez très vite arriver à avoir un emploi? Je pense qu'il y a une demande.
Ouais, il y a une demande, mais il va quand même falloir monter en compétences avant de pouvoir postuler dans les entreprises vraiment.
Donc, a priori, dans un an, vous devriez être prêt à avoir votre diplôme.
Oui. Après, ici à l'école, on étudie plein de branches. Du coup, il y aura toujours, même si on ne travaille pas dans la sécurité, il y aura toujours une branche dans laquelle on pourra plutôt plus s'orienter.
Donc, on va rappeler les branches qui existent.
Nous, on fait de l'informatique, de l'électronique et de l'automatique. Donc, il y a plein de dérivés vers lesquels on peut partir.
Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus?
Moi, plus du développement informatique. Donc, que ce soit sécurité ou système.
Moi aussi.
Donc vous êtes amené à vous revoir peut-être.
Ouais, bien sûr.
Beaucoup de jeunes jouent avec des jeux. Hein. Est-ce qu'ils se rendent bien compte en téléchargeant des applications, des risques qu'ils prennent? Et est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de risques? Est-ce que vous-même, vous faites attention à cela?
On fait attention, mais on prend pas trop de risques. Évidemment, je pense qu'un utilisateur lambda, s'il y a quelques règles à suivre, il n'a pas trop de soucis de sécurité.
Les applications qui s'offrent, souvent gratuites, après il y a des versions payantes, hein. Est-ce que les versions gratuites sont des choses trop en quelque sorte ou pas?
Ça dépend vraiment de l'application.
Donc ça on ne peut pas savoir au départ, il vaut mieux faire attention. Une application qui est mal cotée par les utilisateurs, déjà vaudrait mieux peut-être éviter.
Non, ça veut rien dire parce que l'utilisateur il note par rapport à son expérience, pas par rapport à ce qu'il y a derrière le logiciel. Au final, on ne sait pas comment c'est fait.
Alors justement, est-ce que dans vos formations ou dans des métiers hein, qui pourraient venir, il ne pourrait pas y avoir des experts en dangerosité d'application, puisque ça se développe de plus en plus?
Ouais, ça existe déjà. Enfin, il y a des gens qui travaillent sur des logiciels de reverse engineering pour justement récupérer ce qu'il y a derrière et bah, sécuriser un peu les données privées des personnes qui les utilisent.
Est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'il y ait une base de données accessible à tous, hein, sur la cotation des différentes applications pour prévenir les gens d'éviter tel ou tel?
Oui, bien sûr, mais c'est toujours difficile d'évaluer le risque que présente une application, pour le grand public du moins.
Donc, votre métier, vous le voyez plutôt en France ou plutôt à l'étranger?
Non, bah plutôt en France quand même. Parce que bah, c'est notre pays, hein.
Et au niveau de l'Europe, vous seriez prêt à contribuer à une plateforme européenne de protection des données, pourquoi pas, et des systèmes?
Oui, bien sûr.
Et pourquoi vous ne la construiriez pas?
Là, on n'a pas encore le niveau, je pense.
Bon, ça va venir. En tout cas, on souhaite que vous trouviez vos espaces pour avoir une vie professionnelle épanouie.
Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Merci à Polytech Lille pour son accueil et ses conseils. Vous en savez maintenant davantage pour déjouer les pièges qui vous attendent sur votre ordinateur ou votre téléphone. Surfez couvert. Un reportage de René Laverne de Radio Campus Lille.